Et tout au long de cette semaine, nous sommes en reportage dans le Magnouac grâce à Anne-Rose Jankovic. Toute cette semaine, on découvre le patrimoine architectural et spirituel de ce secteur. Hier, nous étions du côté de Campuzan et aujourd'hui, nous sommes à l'église collégiale de Castelnau-Magnouac. Anne-Rose.
Jean-Louis Banez, c'est avec vous que nous continuons la visite des églises du Magnouac et nous voici dans l'église de Castelnau-Magnouac. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette église, Jean-Louis ?
Alors d'abord, c'est une collégiale, une église collégiale. Alors une église collégiale, il y en a quand même beaucoup dans le diocèse. Pourquoi on dit collégiale ? Parce qu'à une époque, jusqu'à la Révolution en fait, il y avait un groupe de prêtres qui assuraient les offices. Et ce groupe de prêtres, en fait, c'était un chapitre, voilà, de chanoines. Alors des chanoines, on en trouve dans les cathédrales. Il y a des cathédrales où les chapitres de chanoines sont encore importants et assurent leurs fonctions. Mais il y a aussi certaines églises, il y avait certaines églises, comme ici à Castelnau-Magnouac, où il y avait donc des chanoines qui assuraient un service régulier pour la liturgie et la prière. D'abord au niveau paroisse, c'est la paroisse principale de l'ensemble paroissial. Alors c'est vrai que l'église du Magnouac, de Castelnau-Magnouac, est imposante. Après, je ne suis pas certain que ce soit la plus grande en termes de place dans le Magnouac, puisqu'on a des églises aussi qui sont assez importantes. Terme Magnouac, que l'on a visité, est aussi importante. Mais c'est vrai que, vu de l'extérieur, l'église de Castelnau-Magnouac est imposante. Elle a un clocher imposant, d'ailleurs, un clocher fortifié. Et c'est vrai que c'est un monument important du Magnouac.
Elle est vouée à dédiée à quel saint, cette église, cette collégiale ?
Notre-Dame Assomption.
Notre-Dame de l'Assomption. Donc tous les ans, le 15 août, c'est-à-dire dans quelques jours maintenant, c'est la fête patronale du village et de l'église. Donc là, on imagine qu'il y a évidemment la messe.
C'est vrai que le 15 août à Castelnau-Magnouac, oui, c'est la fête patronale et c'est une fête vraiment. La fête de l'Assomption est importante pour tous les chrétiens, mais ici à Castelnau-Magnouac, la tradition, c'est que quand même, c'est une fête importante. Et bon, alors actuellement, la fête locale se tient une semaine avant, alors pas cette année pour les conditions que l'on connaît, mais historiquement, la fête du village, c'est le 15 août.
Alors, décrivons-la un petit peu, cette collégiale. Alors d'abord, il faut préciser qu'elle est en travaux, déjà depuis plusieurs mois. Elle est très colorée, et ça c'est assez typique hein, du coin, ces églises avec des peintures très vives, rouges, verts. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Alors, oui, alors, les travaux ont pour objet de rénover tout le chœur, en fait. Alors, c'est une église qui est très belle. Il y a des chefs-d'œuvre, hein, il y a vraiment des choses très, très belles, des couleurs vraiment vivantes. Voilà, il y a quand même un gros travail de restauration à faire pour redonner vraiment tout leur éclat aux couleurs. Le chœur, ici, il y a un magnifique retable avec un magnifique tableau de Marie, justement, Marie de... en son assomption. Important aussi dans le chœur, c'est qu'on retrouve les fameuses stalles où se mettaient les chanoines. Hein. Donc c'est voilà, il y a quand même un poids de l'histoire ici.
Ils étaient nombreux, hein, si on à en croire le nombre de stalles.
Une douzaine. Et d'ailleurs, d'après la tradition, ils avaient leur salle capitulaire juste à côté. Voilà. Donc c'est au niveau de la salle qui est face à la sacristie actuelle. Et jusqu'à la Révolution. Voilà. Alors ensuite, c'est une église qui comporte quatre chapelles latérales. Donc on a évidemment une chapelle de Marie, de Marie Notre-Dame de Lourdes, dans notre dos. On trouve, alors important, dans la chapelle ici de Saint-Joseph, on trouve un vitrail magnifique qui représente l'apparition de Marie Anglaise de Sagazan. Anglaise, la petite bergère.
Voilà, parce que Notre-Dame de Garaison, c'est tout près. Hein. Ouais. Enfin, à vol d'oiseau, on est à quelques kilomètres peut-être, mais enfin, c'est vraiment une histoire locale.
Voilà, tout à fait. Et donc forcément, on n'est pas surpris de retrouver l'histoire de Garaison évoquée ici.
Et c'est très beau de voir que la chapelle avec cette représentation de Notre-Dame apparaissant à Anglaise de Sagazan fait face à la chapelle avec Notre-Dame de Lourdes qui apparaît à Bernadette, à la jeune Bernadette Soubirous.
Oui, ben, c'est sûrement voulu, évidemment, puisque Garaison C'est vraiment la préface, comme on dit, de Lourdes. Alors, important aussi, si on tourne le dos, on découvre ce majestueux orgue. Alors, Lydie Solomon va jouer un morceau. Alors, cet orgue a toute une histoire, un peu même rocambolesque, puisque cet orgue, alors d'abord, il a été conçu par un moine qui s'appelait Dom Bedos. Et c'était un facteur d'orgue très connu dans le milieu des organistes. Et cet orgue a été conçu d'abord pour l'abbaye de Saint-Sevé de Rustan.
Donc, il était là-bas. Il a été fait pour Saint-Sevé de Rustan et donc il s'est trouvé là-bas.
Oui, c'est ça, tout à fait. Au départ, il était, jusqu'à la Révolution, ou un peu après d'ailleurs, il était donc à l'abbaye de Saint-Sevé. Alors, il date de 1760. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on l'aura confisqué à l'abbaye de Saint-Sevé, avec, on imagine bien, un contexte de l'époque, la Révolution, tout ce qu'il y a eu après. Bon, et donc, cet orgue s'est retrouvé à l'église Saint-Jean de Tarbes, donc l'église du centre-ville, jusqu'en 1894-95. Et en fait, à Saint-Jean, on trouvait que cet orgue était trop petit pour l'église de Saint-Jean. Bon, alors, on pense ce qu'on veut. Mais donc, du coup, apparemment, cet orgue ne semblait pas tellement intéresser la paroisse Saint-Jean de Tarbes. Et on a eu un bienfaiteur dans la commune qui était M. Mousset et qui s'est porté acquéreur de l'orgue pour l'installer ici à Castelnau, donc à la fin du 19e siècle. Et depuis, il est toujours à Castelnau, et depuis, il fonctionne normalement tous les dimanches, et pour chaque célébration, normalement, l'orgue retentit.
Et alors, la tribune existait, ou elle a été faite pour accueillir cet orgue ?
Je pense que la tribune existait. Là, il faudrait vraiment faire des recherches particulières, mais la tribune devait exister. Après, il se peut qu'il y ait un aménagement pour... Vraiment, oui. Parce que c'est vrai qu'on dirait que ça a été fait pour...
Voilà, voilà. C'est très surprenant et cette histoire, elle est étonnante parce qu'on a vraiment l'impression que cet orgue, non seulement il a toujours été là, mais qu'il a vraiment été fabriqué pour cette collégiale, qu'il a été créé pour être ici. C'est quand même assez impressionnant.
Alors oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il fait vraiment partie du paysage. Et bon, je pense que bon, l'espace devait y être, c'est sûr, puisqu'on sait très bien que cette partie-là, avec le clocher, c'est la partie qui aurait été construite au niveau de la collégiale en premier. Donc l'espace y était. Il se peut que ça ait été aménagé et qu'on ait ouvert un arceau pour effectivement qu'on puisse voir l'orgue.
Alors cet orgue... Il est assez renommé, alors de par son âge probablement, mais il a aussi des caractéristiques musicales dont Lydie Solomon va nous parler tout à l'heure. Est-ce que les gens du village, de la paroisse, y sont particulièrement attachés ? On sait que des gens de l'extérieur viennent notamment l'été écouter des concerts ou le voir. Quel est l'attachement des gens d'ici pour cet orgue ?
Alors, il faudrait poser la question aux gens, en fait. Je pense qu'ils y sont attachés sans s'en rendre compte, en fait. Vous voyez, quand on est habitué à voir des choses, à entendre des choses, à côtoyer des gens, on ne se rend pas compte de la valeur que les gens peuvent avoir, que les choses peuvent avoir, etc. Je pense que si demain, on enlève l'orgue, ça poserait quand même problème. Alors, c'est vrai que les fidèles habituels sont habitués à cet orgue, mais j'ai quand même remarqué que les gens qui viennent occasionnellement, qui sont de passage ou en vacances, sont quand même surpris.
Oui. Voilà. Parce qu'on ne s'attend pas dans cet endroit du Manioac à trouver un orgue historique, cet instrument qui a traversé les siècles et qui retentit. C'est assez improbable quand même.
Oui, parce qu'ici, on est quand même dans un milieu rural profond, hein, en fait, hein, sans être péjoratif. Alors, c'est très rare de trouver des orgues comme ça dans des villages comme Castelmanioac. Alors, c'est vrai que cet orgue quand même attire quand même les curieux et les visiteurs parce que les connaisseurs savent qu'à Castelnau-Manioac, il y a un orgue de grande valeur et qui en plus est, alors comme on pourra le dire peut-être après, Dom Bedos de Celles, le facteur d'orgue, en fait avait conçu donc plusieurs orgues en France. Il n'en reste que deux de sa actuellement.
Hein. Il y en a ici.
Un ici et un à Bordeaux. Donc ça donne encore plus de valeur à cet orgue.
Eh bien, merci Jean-Louis Ibanez. Alors, avant de nous quitter et de quitter cette collégiale de Castelnau, alors on va entendre Lydie Solomon qui va nous parler de cet orgue et puis qui nous fera peut-être la joie de jouer quelques notes. Il y a autre chose qui moi m'a frappée quand je suis arrivée dans cette église, c'est la représentation de Saint Nicolas à l'entrée. Qui, alors peut-être a-t-elle été rénovée, mais elle est flamboyante de couleurs.
Oui, c'est vrai. Alors, je ne l'ai pas dit, c'est Saint-Nicolas, effectivement. Oui, c'est aussi une belle pièce de cette collégiale.
Il n'y en a pas beaucoup des représentations de Saint-Nicolas dans les églises du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, malheureusement pour notre évêque Nicolas Brouvet, mais c'est assez rare dans notre diocèse.
Oui, c'est vrai. Alors moi, je suis habitué, donc vous voyez, donc je ne m'étais pas posé la question, mais bon, c'est vrai que c'est une belle pièce et ça justifie que cette collégiale, on puisse vraiment la faire connaître et la mettre en valeur, parce qu'il y a vraiment des éléments architecturaux et des œuvres d'art qui sont magnifiques. Il y a aussi, il faut le signaler, un musée d'art sacré qui avait été aménagé par la commune il y a une vingtaine d'années, où il y a aussi de magnifiques pièces qui datent du Moyen-Âge. Et parmi ces pièces, il y a une Vierge qui allaite l'enfant Jésus. Et c'est une pièce qui est vraiment remarquable.
Et qu'on peut venir voir, qu'on peut visiter.
Alors, qu'on peut visiter. Alors, le petit souci, c'est que ce musée est dans la tour du clocher, donc c'est peut-être pas très pratique pour tout le monde, hélas. Mais c'est tout à fait. Les gens qui désirent venir visiter ce musée peuvent venir. Il suffit de s'adresser à la mairie et on peut trouver le moyen de les accueillir.
Les travaux du chœur seront terminés quand ?
Bonne question, mais il faudrait poser la question à l'artiste qui est en train de les réaliser.
À l'artiste. En attendant, les célébrations ont toujours lieu, que ce soit les dimanches ou pour les sépultures, ou les baptêmes, ou les sacrements différents.
Oui, oui. Donc la collégiale sert. En fait, il y a la messe tous les dimanches à 10h30 et aussi tous les jours à 8h30 le matin. Donc la collégiale fonctionne normalement.
Malgré la présence de l'échafaudage, mais bon, le Seigneur est toujours là.
Oui, mais l'échafaudage, il était quand même un peu plus. Là, il n'y a pas grand-chose. Il ne reste plus grand-chose, l'échafaudage. Mais on a passé. Presque 8 mois, un an, presque, oui, avec un échafaudage en entier qui occupait la moitié du chœur. Alors, ce n'était pas très pratique, mais on a quand même fait. Mais je crois que ces efforts, il faut être patient et il faut vraiment faire preuve de patience parce que, bon, le chœur sera magnifique après une fois rénové.
Vous avez la chance à Castelnau-Magnoac d'accueillir plusieurs mois dans l'année l'artiste Lydie Solomon, organiste, pianiste de renommée internationale, et qui va nous dire à présent quelques mots, puisqu'elle se trouve à Castelnau-Magnoac ces temps-ci. Et donc, on va à présent se tourner vers Lydie. Merci beaucoup, Jean-Louis.
Merci.
Voilà, alors Lydie Solomon, cet orgue que vous connaissez bien, qu'est-ce qui vous inspire ?
Alors moi, je suis pianiste normalement, donc l'orgue est un instrument nouveau pour moi. Et la première fois que je l'ai essayé, j'avais l'impression d'être aux commandes d'un avion merveilleux qui me permettait de m'envoler vers des univers incroyables que ne permet pas le piano, puisque le piano est un instrument plus limité au niveau des nuances. Et cet orgue en particulier, donc qui n'est pas, comme Jean-Louis l'a dit, n'est pas à sa place d'origine. Ce qui m'a intriguée dès le début, c'est qu'en fait, il est vraiment en symbiose avec le lieu. Et je trouve, dès le début que je l'ai joué, j'ai passé, en l'été 2016, j'ai fait mon premier concert d'orgue ici, et j'ai passé un mois, quasiment tous les jours, je prenais les clés de la sacristie et je venais répéter jour et nuit ici. Et j'avais l'impression que cet orgue avait des propriétés vraiment de guérison, par ses vibrations très positives. Et donc, pour moi, en tant que pianiste, c'est très, très enrichissant de découvrir un instrument qui est un clavier, mais en même temps, la possibilité de tirer des jeux et d'avoir un jeu de pédales. Et ça offre, ça nourrit mon jeu au piano aussi. Donc, cet instrument est vraiment, vraiment, vraiment très, très inspirant.
Et puis, c'est un monument. Vous jouez avec l'histoire, en quelque sorte.
Exactement. Mais une histoire qui est, en plus, une histoire une histoire qui a été un petit peu. Qui a eu des bifurcations, quoi, parce que cet orgue n'était pas construit pour être ici, et pour autant il sonne très bien. Alors il y a toujours des batailles de clochers, il faut le récupérer, le remettre à son ordre d'origine. En tout cas, c'est un orgue effectivement historique, puisqu'il en reste que deux, des Dombedos en France. Il y en a un ici et un l'autre à Bordeaux, mais qui n'est pas accordé selon le tempérament. Là, on peut jouer tout ce qu'on veut sur cet orgue, puisqu'il est de tempérament égal. Donc moi, j'avais fait le concert en 2016, où j'avais joué une transcription de la sonate de Liszt, donc une hérésie, mais vraiment, je trouve que cet orgue on pourrait faire même de la variété, pourquoi pas. En tout cas, il offre des possibilités vraiment infinies, je trouve.
Alors, vous êtes régulièrement, on va dire, de passage ici. À chaque fois, vous prenez du temps pour jouer sur cet orgue. C'est important pour vous, cette étape-là ?
Alors, c'est vrai que c'est un entraînement qui m'aide pour mon jeu au piano. parce qu'on a vite fait au piano d'attraper des automatismes un petit peu obsessionnels et qui peuvent faire perdre la sensibilité, de revenir à la source, puisque l'orgue est quand même un instrument plus ancien. Et puis, c'est un instrument avec lequel on ne peut pas tricher. C'est binaire, quoi. On enfonce, le son sonne ou il ne sonne pas. Et les jeux permettent de faire les nuances. Donc, c'est quelque part un instrument qui est plus « facile », entre guillemets, et moins obsessionnalisant, puisqu'on est obligé de penser à plein de choses en même temps. Et puis, c'est très ludique, en fait. Surtout pour moi, qui suis toute petite, de me démener avec cette grande machine. Je trouve ça très, très, très agréable et très réjouissant.
Est-ce qu'il y a un temps pour l'apprivoiser? Quand on est arrivé tout à l'heure, vous nous avez demandé un petit instant pour vous y remettre. Et puis, c'est très rapide, en fait. Hop. Alors, pour vous, c'est certainement très évident. Mais pour quelqu'un qui n'est pas musicien, voilà, vous avez tiré je ne sais même pas comment ça s'appelle, des pistons, des jeux. Vous avez fait 2-3 essais. Comme si, en quelques instants, vous arriviez à l'apprivoiser ou lui vous apprivoise. Comment ça se passe?
C'est vraiment l'histoire du petit prince et du renard. C'est vraiment il faut s'apprivoiser mutuellement, mais ça marche pas avec tous les orgues. Il m'est arrivé d'essayer des orgues, même y compris des orgues qu'on m'avait décrit comme étant des orgues extraordinaires. J'étais un petit peu honteuse, mais franchement, je ressentais moins de choses que sur cet orgue qui paye pas de mine, qui est tout petit, qui a pas tant de jeux que ça, mais qui, moi, dès le début, alors après, il a fallu se connaître, mais il n'y a pas eu cette étape de s'apprivoiser parce que tout de suite, ça a été un coup de foudre. Tout de suite, j'ai compris. Il a un son franc du collier, il triche pas, il raconte pas d'histoire. Donc, et moi, ça, c'est un son qui me plaît énormément.
Qu'est-ce que vous aimez jouer en particulier sur cet orgue ?
Ben, j'aime bien justement aller un petit peu à l'encontre de ce qui se fait, puisque c'est un orgue baroque. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai joué la sonate de Liszt que j'ai transcrite pour l'occasion sur cet orgue. Une sonate qui a été composée bien après la construction de cet orgue. Donc évidemment, ça a un petit peu fait un tollé parfois parmi le public. Ils disaient, mais c'est incroyable, la sonate de Liszt romantique à souhait sur un orgue baroque. Mais en fait, le temps n'existe pas dans la musique. On peut tenter, on peut oser tout ce qu'on veut du moment que c'est beau et que c'est sincère. Et donc sur cet orgue, j'aime jouer des répertoires allant de Couperin à pourquoi pas Ravel. Là, ce que je vais vous jouer, c'est une pièce plus sage, enfin plus qui correspond à un prélude de Bach. Mais vraiment, on peut composer. Les organistes improvisent, donc tout est possible.
Alors on vous écoute pour le prélude de Bach.
Voilà, merci à Anne-Rose Jankovic et ses invités. Nous étions aujourd'hui à Castelnau-Magnoac, à l'église collégiale de Castelnau-Magnoac. Et tout au long de cette semaine, on découvre à travers cette série de reportages le Magnoac. Nous étions hier du côté de Compuzon, aujourd'hui à Castelnau-Magnoac. Et demain, on prendra la direction de l'église de Galan. À demain, Anne-Rose Jankovic.